Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Je reviens dans nos échanges là sur ce que nous avons vu la dernière fois. Nous étions partis donc sur nous sommes dans le procès de Jésus dans le catéchisme et nous mettions un peu en continuité ou en relation ces deux titres dans cette section du procès de Jésus. Les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus et tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ. Donc qui est effectivement qui fait prendre une certaine hauteur sur les événements. Il reste que les événements sont là et c'est assez délicat en fait d'aborder cette question-là. Soit on verse trop dans quelque chose qui est nous sommes pécheurs, c'est l'œuvre de salut de Dieu qui se joue à ce moment-là et voilà la raison même de la mort de Jésus qui va conduire à sa résurrection pour notre rédemption. Soit nous versons d'une manière qui est pas saine, qui est éhontée d'ailleurs, sur les événements sont tels qu'on va dire ben c'est ouais voilà c'est la responsabilité des Juifs, c'est quelque chose de trouver la justesse du point de vue théologique, j'ai envie de dire même du point de vue humain, n'est pas si simple que ça. Il reste que quand on a bien la conscience de ce besoin d'être sauvé, le besoin de la rédemption, quand on a aussi conscience du fait que tout se joue dans une histoire, le Christ s'est véritablement incarné, Dieu s'est vraiment fait homme et c'est ainsi qu'il nous sauve. Ça peut être intéressant d'aller regarder les personnages eux-mêmes de ce procès de Jésus, de ces événements. Et en particulier, il y en a un qui hante toujours nos esprits, c'est quand même l'un des 12, c'est Judas.
Oui, Judas qui avait un nom très beau, puisque Yehuda veut dire la louange de Dieu, et c'est la tribu à laquelle appartenait Jésus. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il était notoire que Jésus appartenait à la tribu de Judas. Il y a un autre d'ailleurs, Jude, que dans l'Évangile, c'est un autre des 12, Jude, et non pas Judas, qui est dans la liste des 12. Donc c'était un nom très connu et très remarqué, très beau. Et le fait que ce soit l'un des 12 qui ait trahi Jésus montre que la Providence a utilisé un moyen qui est effectivement pour nous assez horrible, que c'était un de ceux qui était choisi finalement pour annoncer la bonne nouvelle, qui a ainsi dévié, qui a trahi son maître, et il a fallu le remplacer. On voit ça dans les Actes des Apôtres, juste après la résurrection de Jésus, Saint-Pierre s'exclame en premier, « Frère, il fallait que s'accomplit l'Écriture, où par la bouche de David, l'Esprit-Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part de notre service, de notre ministère, littéralement. Et voici que s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé, la tête la première, et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans la langue Akedelma, Akeldama plus exactement, c'est-à-dire domaine du sang. Or, il est écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se retrouve personne pour y habiter et encore qu'un autre reçoive sa charge. Et c'est à partir de ce passage des psaumes que Saint-Pierre va proposer qu'il y a un remplaçant à Judas qui sera le fameux Matthias. Et Matthias va être tiré au sort et va prendre le rôle que Judas aurait dû avoir. Mais c'est vrai que dans la responsabilité apparaît cette figure de Judas l'Iscariote, à propos duquel c'est surtout Saint Jean qui est sévère, puisque Saint Jean dit que le démon est entré en lui. Et donc, il est, dans le fond, un agent du diable, même lorsque Jésus lui donne la bouchée au moment de la dernière scène, après le lavement des pieds. Il y a ce passage impressionnant où, comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », parce que Judas avait demandé à Jésus, certainement, d'agir dans ce sens bien des fois. Mais en fait, c'est parce que Jean voulait savoir qui était celui qui allait trahir. Et Jésus répondit à Jean, sous l'instigation d'ailleurs de Pierre, qui pousse Jean à faire la question, « C'est celui à qui je donnerai la bouche que je vais tremper. » Et donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas tellement la communion, d'ailleurs, sous cette mode-là, c'est qu'il y a une ambiguïté. « Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. » Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Et c'est impressionnant de voir ce geste de Jésus pour le désigner. Il lui donne un geste de communion, dans le fond, et Judas, ainsi désigné, en profite pour partir et pour aller trahir Jésus. Aussitôt la bouche prise, il sortit, il faisait nuit, précise l'évangéliste. Et quand il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. » Donc Jésus y voit le début de sa glorification dans cette trahison. Donc c'est très beau, c'est-à-dire que c'est l'arrachement du cœur en quelque sorte. Un de ses disciples pour lequel il a tant donné de son effort, de ses prédications, de ses explications, de la parole de Dieu, des annonces prophétiques qu'il allait réaliser cette parole de Dieu, eh bien, il y en a un qui lâche. Et c'est sans doute le crève-cœur de Jésus, cette passion, c'est que Judas le lâche. Et déjà dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait accepté le baiser de Judas au moment où il y avait le groupe de soldats du Sanhédrin qui s'était approché de lui pour le prendre. Et qu'est-ce que dit Jésus à Judas? C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et on sent bien que pour Jésus, tout ça, c'est dramatique. C'est-à-dire, c'est une personne pour qui il a beaucoup donné et qu'il a beaucoup aimé et qui le trahit et qui ainsi achève en quelque sorte ce rôle dramatique qui initie ce rôle dramatique de la passion de Jésus. Donc l'ordre de responsabilité qui est d'ailleurs mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique à propos de ceux qui sont responsables, eh bien on nous dit bien Judas en premier, le Sanhédrin en second, Pilate en troisième. Donc il y a vraiment un ordre.
Oui.
Et donc il y a un ordre de responsabilité. C'est quand même l'intime, le proche, qui est le plus gravement fautif. Jésus dira d'ailleurs de lui, il eût mieux valu que cet homme ne naisse pas, tellement c'est grave d'avoir livré le Fils de Dieu.
On entend fortement résonner les psaumes, par exemple, celui qui partageait mon pain m'a frappé au talon. Ces psaumes qui sont certains terriblement douloureux, qui montrent le tout proche a été celui par qui le drame a explosé, si je puis dire. Et tu rappelais au départ que Judas donc avait un nom très beau, la louange de Dieu, qu'il appartenait à la tribu de Jésus. Il était de son clan. Et c'est vraiment non seulement un des douze, mais un proche. Il y a quelque chose d'une proximité sans pareil qui prend plus d'importance. Celui qui partageait mon pain m'a frappé au talon. Et effectivement, c'est la bouchée, dit Saint Jean, qui va désigner celui qui est le traître.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que les psaumes, ou le prophète Isaïe au chapitre 52-53, d'une certaine manière, décrivent encore mieux à l'intime la passion de Jésus, alors que les évangiles sont plus descriptifs d'une manière extérieure, d'une manière objective. Mais pour comprendre la subjectivité de ce qu'il y avait dans l'humanité de Jésus, il faut souvent remonter dans les psaumes ou dans le prophète Isaïe pour comprendre quel était l'intérieur de la passion de Jésus. Qu'est-ce qui se passait au-dedans du cœur de Jésus, hein, et la façon dont il avait accepté les choses, en particulier 53:4, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. On voit bien donc que Jésus comprenait ce qu'il vivait à travers ces versets de l'Écriture. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. C'est ça qui est le but, c'est la finalité, c'est bien de nous redonner la paix, de nous redonner la guérison, de nous redonner le salut. C'est la parole du prophète Jérémie, « Seigneur, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Et on retrouve la louange à laquelle étaient destinés en fait tous les acteurs, que ce soit Judas ou les autres. Hein. Cette louange qui fait, qui constitue le peuple de Dieu.
Je suis impressionné par la façon dont tu dis cette chose-là, ce rapport au psaume. L'objectivité nous est donnée donc dans les récits, mais la subjectivité de Jésus, cette intimité, va se comprendre à partir des psaumes. Je suis impressionné par ça.
Oui, c'est vraiment la prière de Jésus.
Oui. Merci, frère Édouard.
À bientôt.